OK, ça fait qu'on va continuer dans notre étude de la Confession de foi de Baptiste de Londres de 1689. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 3, les paragraphes 1 et 2. Alors, ceux qui l'ont avec eux, ce serait une bonne chose qu'on puisse suivre. Alors, ce que le chapitre 3, aujourd'hui, on va regarder juste les deux premiers paragraphes, parce que c'est quand même assez long. Il y a quand même les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, on va faire juste les deux premiers paragraphes. Parce que dans le fond, on voit que les décrets de Dieu, il y a les décrets généraux. Puis après ça, il y a les décrets de l'élection et de la prédestination. On le regardera la prochaine fois, donc à la fin du mois prochain. Donc le décret aujourd'hui, vu qu'on va voir juste le paragraphe 1 et le paragraphe 2, on va regarder le décret divin de tous les événements. Qu'est-ce que ça veut dire le décret divin de tous les événements? Ça veut dire que Dieu, de toute éternité, a décidé de tout ce qui arriverait sur la terre à toutes les époques, dans tous les pays, dans toutes les vies de tout le monde, sans aucune exception. Et non seulement les vies, mais ce qui arrive dans la nature, tout ce qui arrive, tous les événements qui arrivent, qui sont arrivés, avaient été décrétés de Dieu. Donc, à quelque part, ce qu'on va regarder, le décret divin de tous les événements, mais avant de l'étudier, on va faire quelques observations préliminaires. On va faire des choses qu'on a besoin de savoir avant de pouvoir les étudier avec intelligence. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est que le décret général de Dieu, c'est un décret universel. Autrement dit, il n'y a rien qui arrive ou qui est arrivé dans le passé que Dieu n'a pas décrété comme de quoi c'était pour arriver. On a peine à imaginer jusqu'à quel point c'est complexe et grand. Et Dieu a décidé de toutes ces choses-là. Donc, l'universalité, on va regarder l'universalité du décret général de Dieu. Et on va regarder aussi l'autre point, ça va être son inconditionnalité. Comme Gervais nous faisait remarquer ce matin, ça va arriver parce que Dieu a décidé que c'était pour arriver. Il a décidé de toute éternité. Alors, ce qui se passe autour de nous, il n'y a rien qui arrive que le Seigneur ne l'ait pas ordonné. Ça, c'est quelque part, ça prend du temps à saisir ça. Parce qu'on regarde autour de nous, il se passe plein de choses. On tombe malade, on perd notre travail. Il y a tellement de choses qui nous arrivent dans la vie. Hein. Mais la Bible nous dit que tous les événements qui arrivent dans la vie, y compris les événements de la nature, y compris le déplacement des planètes, des étoiles et tout ce que tu voudras, Dieu a tout décidé qu'est-ce qui était pour se passer dans toutes les époques, de tous les temps. C'est énorme. Alors, quelque part, ce matin, on rentre, comme on pourrait dire, dans le steak. Des fois, on parle de pablum dans la théologie. Ce matin, on n'est pas au pablum. On est dans le steak. Ça prend des dents pour être capable de mastiquer ça, comprendre ça, digérer ça et aussi l'appliquer dans notre vie. C'est parce qu'il y a des applications pratiques de tout ça dans notre vie de tous les jours. Si on sait que tous les événements que Dieu permet qui arrivent, peu importe que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine planétaire, dans le domaine végétal, dans le domaine animal, tout ce qui arrive a été décrété de Dieu. À quelque part, on devrait tout chialer quand un bon matin d'hiver, on se réveille, puis il fait froid, puis il neige. Ah, moi, t'as Hein? On chiale. On est des chialeux naturels. Cependant, on devrait toujours se rappeler que qu'est-ce que le Seigneur a décidé pour ce jour? C'est lui qui l'a décidé. Alors, quand on chiale, c'est comme si on disait au Seigneur, ben voyons donc, ouais, c'est ça que j'ai besoin aujourd'hui, moi. C'est ça qui t'envoie, donc c'est parce que c'est ça que tu as besoin. On ne devrait jamais chialer, on devrait toujours garder notre sérénité intérieure et notre contentement. Avez-vous remarqué que ce n'est pas toujours le cas? Avez-vous remarqué ça dans vos propres vies, que ce n'est pas toujours le cas? Alors aujourd'hui, on va étudier le décret de tous les événements. On va le lire dans le texte tantôt et on va prendre petite phrase par petite. On va découper le paragraphe 2, on va découper le paragraphe 3, regarder point par point qu'est-ce que les Écritures nous disent avec des versets pour démontrer que ce n'est pas une invention du pasteur, c'est vraiment quelque chose qui est dans les Écritures. Alors, on va regarder l'autre à la fin du mois, on va terminer le paragraphe 3, donc on va faire les paragraphes 4, 5, 6, 7. Mais aujourd'hui, c'est juste 1 et 2. Alors, si vous avez votre confession de foi, si vous n'avez pas une en arrière, si ça vous tente de suivre, vous pouvez le faire. Alors, si vous regardez le mouvement de la pensée, dans ce paragraphe-là, on va du général au spécifique. Alors, paragraphe 1 et 2, c'est vraiment le décret des événements en général. 3, 4, 5, 6, 7, ça va être plus la prédestination, l'élection. Autrement dit, la question de ta destinée éternelle, non seulement des nôtres, de nos vies, mais dans l'ensemble de tous les êtres humains. Alors, les observations préliminaires, on t'a dit que c'était le premier point. L'observation numéro 1, c'est que si on veut comprendre une confession de foi, que ce soit la confession de foi baptiste de Londres de 1689, ou qu'elle ce soit celle des Westminster Confession of Faith, autrement dit, qui est celle des presbytériens, parce que celle des baptistes et celle des presbytériens, c'est presque similaire sur beaucoup de points, excepté sur quelques points en particulier. Alors, autrement dit, les baptistes, ils n'ont pas voulu réinventer la roue, parce qu'en 1646, les presbytériens avaient rédigé leur confession de foi, qui était Westminster Confession of Faith. Ils ont pris sur les points avec lesquels ils étaient d'accord et ils ont modifié les points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Comme par exemple, les presbytériens vont baptiser les bébés. Les baptistes ne baptisent pas les bébés. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé à peu près le même contenu, mais excepté que là où il y a des variances dans notre compréhension des Écritures, on a, dans la 1689, précisé sur les points avec lesquels on n'était pas d'accord. Alors, c'est important de savoir, historiquement, pourquoi ça a été écrit comme ça. Parce que ça a été écrit au 17e siècle, on parle des années 1689. Donc, 1689, pourquoi il se passait des choses en Angleterre en 1689? Non seulement en Angleterre, mais en Europe, en Hollande, il se passait une controverse au sujet du calvinisme et de l'arminianisme. Le calvinisme, on rentrera dans un point en détail dans la prochaine leçon. Et il y avait une controverse, et à quelque part, ça nécessitait que les baptistes de l'époque, une centaine de pasteurs baptistes de l'époque, se sont rassemblés et ont voulu préciser cette doctrine-là du décret de Dieu. Le décret général et ensuite le décret qui comprenait la prédestination et l'élection. Alors, c'était une centaine de pasteurs réformés baptistes d'Angleterre. C'était vraiment l'époque de la controverse arminienne versus calviniste qui faisait rage en Europe. On se souvient qu'il y avait eu des réponses des théologiens hollandais, anglais, suisses et français. Ils se sont réunis parce que ça faisait rage dans les chrétiens. C'était vraiment deux points de vue sur le salut complètement opposés. Alors, ils se sont réunis et ils ont pondu, on pourrait dire, le document qui s'appelle « Les canons de Dordrecht ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ils ont pondu ça en 1618, 1619. Et c'est dans le contexte de cette grande controverse-là que la confession de foi baptiste de 1689 a été écrite. C'est important de saisir ça parce que ça se situe historiquement. On comprend mieux la doctrine, la confession de foi de Baptiste de 1689, lorsqu'on comprend son contexte historique. Alors, eux autres, les théologiens presbytériens, avaient écrit aussi leur confession de foi, qui s'appelle « The Westminster Confession of Faith », et eux, c'était venu à l'existence en 1646. Nous, c'est en 1689. Alors, les baptistes ont senti le besoin d'expliquer qu'ils n'étaient pas si différents que ça des presbytériens, excepté sur quelques points bien particuliers qui sont développés dans la... Alors, c'est dans le contexte de cette controverse-là que ça a été écrit, toute la confession de foi baptiste de 1689. Ils l'ont placé à cet endroit-là, le chapitre 3. Ce n'est pas un hasard. On a parlé des Écritures, du chapitre 2, on a parlé de la Trinité, et à peu près, là, si je me souviens bien. Après ça, le chapitre 3... On a voulu parler tout de suite dans le chapitre 3 du décret de Dieu. Pourquoi? Parce que ça se situait dans l'ensemble de la grande controverse qu'il y avait à l'époque entre les calvinistes et les arminiens. L'observation numéro 2. Donc ça, on comprend que ça a été fait historiquement dans un contexte bien particulier. Observation numéro 2. C'est très simple. Rien ne peut empêcher l'accomplissement des décrets divins. Le décret souverain ou secret de Dieu ne peut être résisté par quelque créature ou quelque force que ce soit. Autrement dit, quand Dieu a décidé que quelque chose est pour se produire, il n'y a rien pour empêcher ça, que ce soit Satan, la horde des démons, l'ensemble des forces humaines combinées, il n'y a rien qui peut empêcher le décret de s'accomplir. Bien important. Alors, ça s'accomplit infailliblement. Quand les Écritures nous disent que notre destinée éternelle a été décidée dans l'éternité, si Dieu l'avait décidé, c'est sûr que dans le temps, ça va s'accomplir. Ça, c'est extrêmement important pour nous de réaliser. Et ceux qui ont les feuilles, je vous ai mis plusieurs versets qu'on n'ira pas nécessairement tout regarder ce matin, mais si vous avez, je vous conseille d'aller les voir pour... C'est des versets qui vont vous démontrer que quand Dieu décrète quelque chose, ça s'accomplit infailliblement, immanquablement. La troisième observation, c'est que rien n'échappe au décret de Dieu. Absolument tout ce qui arrive est inclus dans les décrets de Dieu. Deux arguments militent en faveur de ce que je dis là, de cette affirmation-là. Premièrement, la Bible déclare que le décret de Dieu est universel. Autrement dit, que ce soit dans le ciel, dans les étoiles, dans les planètes, que ce soit dans le monde végétal, que ce soit dans le monde animal, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu a décrété ça dans les moindres petits détails. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Alors, j'ai mis des versets encore là pour que vous pourrez aller voir. La Bible déclare que le décret de Dieu est universel. Deuxièmement, la Bible enseigne spécifiquement que tous les genres ou toutes les classes d'événements sont inclus dans le décret de Dieu. Il n'y a rien qui arrive que Dieu n'a pas décrété. À quelque part, les premières fois qu'on commence à se familiariser avec ces choses-là, j'avoue que c'est beaucoup. Et si la fourmi tourne à gauche... C'est Dieu qui a permis ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Si l'oiseau se pose à tel endroit, si une feuille tombe, il sait même quel chemin elle va prendre pour descendre jusqu'au sol, puis où exactement elle va tomber. Quand on parle de tous les événements, là, c'est énorme. Et Dieu a décidé de tout cela. Ça prend une intelligence phénoménale, une intelligence infinie pour être capable de faire une pareille chose, de tout décréter d'avance. Donc, quand on dit... On va regarder les choses que Dieu a décrétées. Donc, il y a les événements bons et mauvais, sans que Dieu soit responsable. Là, il y a un paquet de versets. Ceux qui ont les feuilles, vous allez pouvoir aller regarder. Faites-le, s'il vous plaît. Parce que si vous le faites, vous allez mieux comprendre. Si vous ne le faites pas, ça va rentrer par une oreille, ça risque de sortir par l'autre. Quelque part, plus on comprend la théologie, plus on est proche de Dieu, plus on comprend aussi que les événements que Dieu permet qui arrivent dans la vie, quelque événement que ce soit, c'est Dieu qui l'a permis. Et ça, quelque part, ça vient nous soulager et ça vient nous donner aussi du contentement au niveau de ce qui arrive dans la vie. Donc, les événements bons et mauvais, j'ai mis un paquet de versets, vous irez les voir. Les actions pécheresses des hommes. Ça, c'est un peu difficile à saisir parce que Dieu dit que les actions des péchés des hommes, c'est lui qui les a décrétées, mais que c'est nous qui sommes responsables. Quand on essaie de mettre ça ensemble, là, quelque part, ça crée comme un petit... ça tille, comme on dit. Hein. Tu sais, on a de la difficulté à saisir ça. Dieu dit qu'il a décrété les événements péchés. Et on va aller voir les versets. C'est pas juste... Là, je donne des grandes idées générales, mais après, on va aller voir les choses en détail. Troisième chose qui est décrétée par Dieu, c'est les actions libres des hommes. Ce qu'on fait, l'endroit où on va travailler, l'endroit où on est né, l'endroit où on va mourir, tout est décrété de Dieu, mais sans t'enlever ta liberté. C'est ça qui est difficile à saisir, parce que tu dis, si Dieu l'a décrété, Ça l'arrive parce que Dieu l'a décrété. Oui, dans un certain sens, mais dans un autre sens, la Bible dit aussi que tu es complètement responsable de tes actes. À quelque part, essayer de concilier les deux, dès qu'on rentre dans ces doctrines-là, qu'on essaie de se creuser la tête pour essayer de concilier ça, c'est pas facile. On va le voir, par exemple, dans le cas de Jésus. Parce que ça disait que Jésus, ça avait été déterminé d'avance comment il mourrait sur la croix. Alors, quelque part, on se dit, Dieu a décidé qu'il mourrait sur la croix, mais les actions des hommes qui ont été méchants pour l'emmener là sont pas exclus. C'est pas arrivé, c'est arrivé parce que les hommes ont exercé leur liberté, mais c'est arrivé aussi parce que Dieu l'avait décrété. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de ça au cours de la leçon. Donc, les événements aussi, quatrième chose, donc les actions libres des hommes, troisièmement. Quatrièmement, les événements relevant du supposé hasard. Supposons que vous prenez les dés, vous les lancez. Selon vous, Dieu, sais-tu quel numéro qui vont tomber? Donc, nous, on dit que c'est un hasard. Il y a un verset qui dit « les dés sont jetés dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Autrement dit, il y a des versets qui nous disent que peu importe les choses qui ont l'air à nos yeux d'être des hasards, Dieu dit que c'est lui qui avait décidé qu'est-ce qui était pour arriver. Cinquièmement, les détails de nos vies. Bon, moi, je m'appelle Marcel Longchamp, puis mon père s'appelait Léon, ma mère s'appelait Simone. Je suis venu au monde à Lac-Mégantic, le 21 septembre 1946. Ça, c'est Dieu qui avait décidé ça. La date de ma naissance, l'endroit de ma naissance, les circonstances de ma vie, l'éducation que je recevrais. Il savait tout ça d'avance. Il avait déterminé que ça arriverait. Après ça, il a décidé des maladies que je pourrais avoir. Il a décidé combien de temps j'irai à l'école, qu'est-ce que je ferais dans ma vie, les péchés que je commettrais. À quelque part, quand on se met à réfléchir à ça, c'est mystérieux. On s'arrête à dire, Dieu sait le jour où je vais mourir. Dieu sait les circonstances dans lesquelles je vais mourir. Est-ce que je vais mourir à maison, dans mon lit, bien tranquille, ou si je vais mourir d'une grave maladie qui va s'étirer sur des années? Je ne le sais pas. Mais Dieu dit que toutes les circonstances de ta vie ont été déterminées par lui, y compris le jour de ta mort. Il sait même le jour que je vais mourir. Des fois, on prend des marches, faut plus le sujet. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas, je suis bien mieux de ne pas le savoir non plus, parce que s'il faudrait qu'ils me disent, c'est en 2020, tu vas mourir de telle affaire, dans telle circonstance, peut-être que là, je ne serais plus capable de vivre ma vie. Parce que je serais centré là-dessus, j'aurais peur. Maintenant, Dieu dit, lui, que lui sait le jour où tu vas mourir, les circonstances dans lesquelles tu vas mourir. Donc, les détails de nos vies au complet, il avait tout déterminé ce qui était pour nous arriver dans notre vie. Les affaires des nations. Ça, c'est le sixième point. Autrement dit, les nations ont eu des limites territoriales. Donc, la France n'a pas toujours été comme elle est là. L'Allemagne, vous regardez la situation dans l'Europe, n'a pas toujours été comme elle est là. Ça grossit, ça rétrécit à cause des guerres, à cause de toutes ces choses-là. Mais Dieu dit dans sa parole que c'est lui qui a déterminé les bornes des nations et ce qui était pour arriver à différentes nations. Regarde, l'Égypte, au temps de Jésus, était une super puissance équivalente des États-Unis aujourd'hui, pour l'époque. Là. Aujourd'hui, c'est rendu, comme on dirait en anglais, a tiny place. C'est tout petit, là, puis ça n'a plus de puissance, comparativement à ce qu'il y avait anciennement. Donc, Dieu, toutes ces choses-là, par rapport à toutes les nations, a décidé quel serait leur sort, qu'est-ce qui leur arriverait, leur territoire. La population, les guerres qu'ils auraient entre les nations, toutes ces choses-là étaient déterminées par Dieu. Donc, les affaires des nations, et ceux qui ont les feuilles, vous irez regarder les versets. C'est pas moi qui invente ça, là, c'est la Bible qui enseigne ça. Et l'autre, le septième point, la destruction finale des méchants. Plein de versets qui nous disent qu'est-ce qui va arriver aux méchants quand Jésus va revenir et que les êtres humains, tous les péchés qu'ils ont commis vont être jugés. Donc, et il dit à l'endroit même où ils vont aller, en enfer, dans le lac de feu pour l'éternité. Là, ceux qui sont actuellement morts, qui n'appartenaient pas à Christ, leur âme est en enfer. Mais au jugement, ils vont l'âme et le corps vont se réunir, et la dernière partie, ça va être qu'ils vont être dans le lac de feu pour l'éternité, âme et corps. Actuellement, ils sont juste l'âme. La même chose pour le ciel. Ceux qui sont des chrétiens, qui sont morts depuis quelques années ou même des siècles passés, leur âme est avec le Seigneur. Pas que leur corps. Le corps va redevenir uni avec leur âme au moment où le Seigneur va revenir et va réunir l'âme et le corps. Et là, tu vas vivre ton éternité, soit dans le ciel ou soit en enfer. Mais un jour, le corps et l'âme vont être réunis de nouveau. Alors, quand on dit destruction éternelle. Observation numéro 4, rien ne conditionne les décrets de Dieu. Alors, rien ne conditionne les décrets de Dieu, sinon c'est que c'est Dieu lui-même qui le fait. Alors, on peut le prouver par plusieurs considérations. La nature de la situation, absolument rien n'existait au moment où Dieu a pris la décision de tout ce qui arriverait sur la terre à tout moment. Donc, c'est pas des conditions extérieures qui l'ont influencé. Il était tout seul. L'autre, c'est que les Saintes Écritures affirment que personne ne conseilla Dieu lorsqu'il décréta ce qui devait arriver. Et là, je vous ai mis plein de versets, vous irez les voir. Je vous garantis que si vous prenez des leçons comme ça, puis vous prenez le temps d'aller voir les versets, vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qui est affirmé. Parce qu'affirmer une chose comme ça, et sans aller voir les versets, bien sûr, on pourrait tout aller les voir, mais la leçon durerait 3 heures. Là. Alors, rien ne conditionne, c'est Dieu était seul, et l'affirmation des Écritures nous dit. L'observation numéro 5, les difficultés qui sont reliées à la bonne compréhension, c'est les décrets des actions pécheresses. Quand on dit que Dieu a décrété les choses qui doivent arriver, qui sont des péchés dans la vie de tous les hommes de toutes les époques, on est porté à se dire, mais si c'est lui qui l'a décrété, donc si on l'a fait, c'est parce que lui l'avait décrété. Non. Il l'a décrété, mais en respectant la liberté des hommes, parce que lui est capable de voir l'avenir. Donc, on va prendre des exemples tantôt, ça va nous aider à comprendre. Mais c'est important de voir que Dieu a décrété les actions pécheresses, mais que ça ne fait pas de Dieu l'auteur du péché. Ça, j'avoue que ça nous pose des petites difficultés au niveau de l'intelligence. Parce que pour nous, on se dit, si Dieu l'a décrété, je vais le faire et donc je ne suis pas responsable. La Bible dit non. Dieu l'a décrété, mais c'est toi qui es responsable. Quelque part, c'est des choses de la théologie qui nous amènent à faire travailler nos méninges un petit peu. Puis on n'arrive pas toujours à expliquer pourquoi. Alors on va prendre une illustration. Quand le roi David a décidé de faire le dénombrement d'Israël, ceux qui ont lu le Bible complet au moins une fois ont passé sur ce passage-là. Alors on va regarder deux choses. Il y a un passage qui dit que c'est David qui a décidé ça, puis il y a un autre passage qui dit que c'est Satan qui a décidé ça. Là, quand on met les deux passages un côté de l'autre, on se dit quelque chose ne marche pas ici, là. Mais on voit que c'est la doctrine du décret de Dieu. Vous, 2 Samuel, chapitre 24, au verset 1. La colère de l'Éternel s'alluma encore contre Israël. Et il incita David contre eux. C'est qui incita David contre eux?
Dieu.
Dieu! En disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, chef de l'armée qu'il avait auprès de lui, va parcourir toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et faites le dénombrement du peuple afin que j'en sache le nombre. Mais Joab répondit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, veuille augmenter ton peuple autant et 100 fois autant qu'il est maintenant, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, prend-il plaisir à cela? Normalement, c'est un manque de foi de la part de David de vouloir savoir combien d'hommes il y avait à sa disposition pour faire la guerre. Il n'avait pas besoin de savoir ça du tout. Là. Il péchait en faisant ça. Et si vous allez parler du même passage ou du même événement dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, ça dit « Or, Satan s'éleva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. » On parle du même événement, là. L'un qui dit que c'est Dieu, puis l'autre qui dit que c'est Satan. Donc, la seule façon de réconcilier les deux, c'est Dieu par l'intermédiaire de Satan. Mais David aurait dû résister en disant, « Je n'ai pas besoin de savoir ça, je fais confiance à Dieu dans les guerres. » Alors, ça dit, « Or, Satan s'éleva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapporte-le-moi afin que j'en sache le nombre. » Mais Joab répondit, « Que l'Éternel veuille augmenter son peuple 100 fois autant qu'il est. » Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela? Et pourquoi Israël en serait-il coupable? Voyez-vous, Joab, c'était son général. Joab savait que David, en faisant ça, il ne faisait pas correct. Il l'a averti. Il l'a fait pareil. Prendre un autre exemple. L'exemple des souffrances de Christ et de la sorte de mort que Jésus devait subir. On lit dans Actes 3, versets 14 à 18, « Mais vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier, et vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est par la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos chefs. Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir. » Autrement dit, les Écritures avaient prédit, avaient prophétisé que Jésus-Christ, la façon dont il mourrait avait été dit dans les Écritures. Acte 4, versets 26 et 28. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint. Et regardez bien le verset 28. Pour faire, il parle des rois, là. Il parle de Hérode puis Ponce Pilate. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance de voir être faites. Voyez-vous, on a deux rois qui décident de crucifier Jésus. Ils en sont pleinement responsables et ce n'est pas le moindre de mes péchés. C'est un péché énorme parce qu'ils savaient qu'ils étaient innocents puis ils l'ont fait pareil. Mais ça dit en même temps pour que ces deux hommes-là, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil, là on parle des décrets. Autrement dit, Dieu avait décrété que c'était par ce moyen-là qu'il mourrait. Il l'avait décidé. Mais les deux hommes qui l'ont emmené à la croix sont responsables de leur péché. Mais Dieu savait d'avance que ces deux hommes-là feraient ces choses-là. C'est mystérieux, hein? C'est mystérieux. Maintenant, on va regarder le décret divin de tous les événements, son universalité. On va regarder, par exemple, on va commencer le paragraphe 1, on va commencer par le lire, ce qui est écrit dans la Confession de foi, là. Alors, dans le paragraphe 1, ça dit « De toute éternité, donc la décision de décréter toute chose qui devait arriver, ça s'est produit avant même que la Terre existe, avant même que l'univers soit fondé, de toute éternité. Donc, c'était avant que le temps existe, avant que la Terre soit créée. Selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. » Là, prenez juste votre propre vie, puis regardez tout ce qui vous est arrivé, puis tout ce qui vous arrive. C'est Dieu qui l'a décrété. À quelque part, on se dit, « Bon, mais s'il l'a décrété, je ne suis pas libre. » Non, la Bible dit que tu es libre. La Bible dit que tu es responsable de tes péchés. Alors les deux, c'est difficile à comprendre quand on les met côte à côte. Alors Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. Alors, quand on dit alors l'universalité, c'est qu'il n'y a rien qui arrive qui n'est pas compris dans le décret de Dieu. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché. Voyez-vous, quand on disait tantôt qu'il avait décrété les actions pécheresses des hommes, là, on se rapportait à penser, bien, s'il l'a décrété, je le fais parce qu'il l'a décrété. Non! Tu le fais parce que tu es libre, et lui, il l'a vu d'avance, et il a décrété que c'était pour arriver comme ça. Et là, la confession de foi nous dit quelque chose de très important. De manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché. Non plus qu'il n'a de communion avec quiconque a cet effet. Donc, Dieu n'est pas responsable des gestes pécheresses, des actions pécheresses que tu fais, mais cependant, il a décidé que c'était pour arriver quand même. C'est un peu spécial, hein? Sans faire violence à la volonté de sa créature. Autrement dit, il a décidé que tu étais pour telle faire, telle affaire, mais il n'a jamais forcé ta volonté à ce que tu fasses la chose. C'est toi qui as décidé de le faire. Donc, sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ça, j'avoue que c'est un paragraphe qu'il faut que vraiment que tu y aies des explications. Parce que la première fois que tu lis ça, tu dis, sans faire violence à la volonté de sa créature, ça, c'est pas pire. Mais sans la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies, s'il y en a qui sont capables de m'expliquer, venez en avant, ça me fait plaisir. C'est pas si facile que ça à comprendre. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Alors, je vous ai mis le paragraphe 1, mot à mot, et avec tous les versets que eux, parce que quand vous avez un petit numéro à côté, là, vous savez qu'il faut que vous ayez voir ce verset-là. Alors, je les ai toutes mis. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le paragraphe 1 et on va y aller phrase par phrase, petit bout de phrase par petit bout de phrase. Parce que ça a l'air facile à comprendre à première vue comme ça. C'est pour ça que je dis, la confession de foi, là, tu la lis et OK, les mots sont là, tu es capable de lire le mot. Mais de là comprendre ce que ça veut dire, c'est une autre affaire. Mais une confession de foi qu'on dit qu'on adhère puis qu'on ne la comprend pas, quelque part, moi, je trouve que c'est une contradiction dans les termes. Parce qu'une confession de foi, ça dit « je confesse croire ceci ». Mais si je te demande « explique-moi ceci », tu n'es pas capable de m'expliquer, il y a un problème. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre notre confession de foi, qui est valable depuis 1689 et qu'il y a une multitude d'églises qui continuent à l'utiliser à cause de sa valeur, on a besoin de mieux la connaître, de mieux comprendre ce qu'elle dit. Alors, on va le prendre un paragraphe par paragraphe. Alors, l'universalité du décret. Ça dit de toute éternité. Ça nous situe dans le temps où ça s'est passé, tout ce décret-là. Dieu a décidé toutes ces choses-là, mais quand? Il décide ça à mesure ou s'il a décidé tout d'avance? Imaginez, on est rendu au 21e siècle. L'univers existe depuis plusieurs milliers d'années. Tout ce qui s'est passé sur la Terre, dans les moindres détails, dans la vie de tout le monde, tout ça avait été décidé par Dieu. Imaginez l'intelligence que ça prend. Si tu essaierais juste de le faire avec 20 personnes, tu aurais déjà plein ton chapeau. Mais si tu le fais avec des milliards de personnes, et non seulement avec les vies des êtres humains, la vie des animaux, la vie des poissons, la vie des oiseaux, la vie de la végétation, tout ce qui existe, la vie des planètes, la vie des... Et que tout ça a été décidé d'avance dans l'intelligence de Dieu, dans le conseil de Dieu. Pourquoi on dit conseil? Parce qu'il est à trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont entendus pour tout ce qui était pour arriver dans le temps et dans l'espace. C'est dur à comprendre. Donc, les décrets de Dieu ont été conçus avant que l'univers soit créé, soit, comme les Écritures le disent, dans l'éternité. On prend Ésaïe 46, verset 10. Et le Seigneur qui parle, il dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Un peu comme on a parlé dans les partages ce matin. Quand Dieu dit quelque chose, voyez-vous, il avait décrété que son fils Jésus mourrait sur la croix dans des circonstances horribles. Mais les deux hommes qui ont participé à l'emmener, les rois de la terre, Hérode et Ponce Pilate, les deux sont coupables de leur péché, mais Dieu avait décrété quand même que c'était par ce moyen-là que son fils mourrait. Spécial. Et Ésaïe 45, verset 21. « Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point d'autre Dieu juste et sauveur que moi. » Il est en train de dire, toutes les choses ont été déclarées d'avance. C'est moi qui les ai décidées. Fait que quand on voit des choses se produire autour de nous, peu importe que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau de notre vie personnelle, que ce soit au niveau des animaux, de la végétation, des poissons, des oiseaux, Dieu a décidé de toutes choses de toutes les époques. Puis quand ça dit « selon le conseil », dans le deuxième mot de toute éternité, « selon le conseil », quand on parle d'un conseil, par exemple, en politique municipale, on va dire « Ah, ben c'est le conseil qui a décidé ça ». Le conseil, ça implique plus qu'une personne. Ça implique un regroupement de personnes qui prennent des décisions. Bien ici, le conseil, c'est trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous les trois Dieu. Dieu le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et c'est les trois personnes ensemble, le conseil des trois personnes ensemble qui a décidé qu'est-ce qui se passait sur la terre à toutes les époques, dans tous les domaines possibles et imaginables. Alors, on parle du conseil trinitaire, Dieu le Fils. Alors, Éphésiens 1:11 nous donne vraiment la preuve de ça, parce que ça dit, « C'est en lui que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. » Tu es en train de dire que tout ce qui se passe sur la terre, ça l'arrive parce que Dieu avait décidé d'avance, les trois personnes de la Trinité avaient décidé d'avance que ça devait arriver comme ça. La date de votre salut, des fois on ne s'en souvient même pas, mais pour plusieurs, il y en a qui s'en souviennent. Dieu avait décrété cette date-là. Il avait décrété le moyen par lequel vous viendriez au Seigneur. Et plein de choses comme ça. Alors de penser, c'est quelque chose de vraiment qui est... Alors, on va définir ce que c'est un décret. Mais un décret selon la Bible, parce qu'on peut parler, tu sais, des fois on parle d'un décret de la construction, ils veulent pas s'entendre, le gouvernement veut quelque chose, les syndicats veulent d'autres choses, et ils n'arrivent pas à s'entendre, le gouvernement dit, ben ok, on mange de même, moi je vais vous les dire c'est quoi vos salaires, puis c'est quoi les conditions, et tout ça. Ils font un décret. Un décret, c'est dit, ça va se passer de même. Un décret de Dieu, si on le définit selon la Bible, ça dit... Les décrets de Dieu sont son dessein éternel, selon le conseil de sa volonté, dessein par lequel, en vue de sa propre gloire, il a préordonné tout ce qui advient au monde. Autrement dit, tout ce qui arrive. Et là, on fait juste se limiter à notre propre vie, on a déjà plein notre chapeau, et il a décidé tout ce qui va t'arriver dans ta vie. La maladie? Il avait décidé que c'était pour arriver dans ta vie. Perte d'emploi, il a décidé que c'était pour arriver dans ta vie. De quelle manière tu vas mourir, il a décidé de quelle manière tu vas mourir. Et tout ça, et tout cela. Et toute ta vie au complet, ça c'est un individu. Mais il le sait également et il l'a décrété pour les 8 milliards d'individus qui existent sur la terre. Il nous connaît tous à la perfection, tous sans exception. Et c'est tout ce qui va arriver à tout le monde. Alors ça, on trouve cette définition-là qui est dans les textes de Westminster, le petit catéchisme de Westminster, quels sont les décrets de Dieu. Le petit catéchisme là, de Westminster, on a un, nous aussi, dans les baptistes, le petit catéchisme des baptistes. Et le petit catéchisme, c'était à l'intention des enfants. Et aujourd'hui, bien souvent, on est rendu des adultes, ça fait 25-30 ans qu'on est chrétien, puis on ne sait même pas des choses que les enfants apprenaient par cœur quand ils allaient dans les églises presbytériennes. Là. Le petit catéchisme de Westminster. Si vous, je sais pas, ils sont probablement assez vieux, pour se souvenir du temps où on nous faisait apprendre les réponses du catéchisme par cœur. Moi, j'ai connu ça. Puis si on manquait, il fallait rester après l'école, puis elle nous disait, ben, telle question t'a manqué, faut que tu la reprennes, puis tu partiras pas de l'école, tu ne retourneras pas chez vous, tant que tu ne connais pas ta réponse. Le petit catéchisme de Westminster, c'était le catéchisme des protestants, des presbytériens. Et ça, c'est la question pour les enfants. Quels sont les décrets de Dieu? Puis les petits-enfants, là, ils pouvaient dire par cœur la réponse, alors que nous, bien souvent, après bien les années de chrétienne, on ne sait même pas la réponse encore. Pourtant, c'est des affaires fondamentales, c'est des affaires qu'on devrait savoir depuis longtemps. Donc, on continue. De toute éternité, selon le conseil, très sage et très saint de sa volonté. La sagesse de Dieu, ça veut dire que quand Dieu conçoit quelque chose, il le conçoit toujours sans erreur aucune. Voyez-vous, quand, disons, vous décidez, vous bâtissez une grosse tour, là, une grosse tour à étages, disons qu'elle a 80 étages, bien, après un an, même avant ça, souvent, on se dit, « Oh, ça, telle affaire, c'est mal conçu. Telle autre affaire, c'est très mal conçu. Telle autre affaire, là, ils voient les défauts qui sortent. » Même s'ils se sont donnés tous les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, il y a toujours quelque chose qu'ils n'ont pas pensé correctement. Mais Dieu, lui, dit, quand on parle d'un Dieu très sage, c'est que le plan de Dieu, c'est ça comprend tout ce qui devait arriver de toutes les époques, de tous les temps, et il n'y en a pas d'erreur dans son plan. Zéro erreur. C'est lui qui a décidé, il sait que c'est sage, et il sait aussi que c'est saint. Et lui, dans sa sainteté, il a décidé ça. Alors, tout ce qui est décrété dans son plan respecte le fait qu'il est infiniment saint. Après ça, ça continue la phrase de toute éternité sur le conseil, très sage, très sa volonté. Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. En lui-même, ça veut dire que c'est lui qui l'a décidé. Librement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'influence de qui que ce soit pour dire, ben là, peut-être tu devrais faire ça comme ça. Ben, non. Après ça, immuablement, ça veut dire, on a parlé d'immuabilité tantôt, Dieu a décrété ces choses-là et ça ne peut pas se changer. Ce que Dieu a décrété qui va arriver demain, hein, ça ne se change pas, ça va arriver tel que Dieu l'a décrété. Après-demain, après-après-demain, toutes ces choses-là vont arriver, tout ce qui arrive. Alors, le Seigneur a décrété tout ce qui devait arriver dans le monde créé, dans tous les domaines et pour toute la durée de la création. Bien entendu, cela inclut ce qui se passe dans l'univers. Les planètes, les étoiles, il sait combien il y en a, c'est quoi leur rotation, toutes les choses. Dans le ciel lui-même, autrement dit, il sait ce qui se passe dans le ciel lui-même, les anges et les élus, ceux qui sont déjà là, il sait tout ce qui se passe là-dedans. Sur la terre, dans les règnes minéral, végétal, animal et humain. Quand le Seigneur disait dans les Écritures, on le lit dans les Évangiles, il dit, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'a décidé. Il peut même compter les cheveux de ma tête. Moi, c'est pas long à compter. Mais il reste que je ne connais pas le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Mais Dieu, lui, le connaît. Alors, ça dit de telle manière, cependant, on continue, là, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet. Quand on commence à étudier ces choses-là, c'est vrai que ça crée des problèmes dans notre esprit parce qu'on se dit tout le temps, s'il l'a décrété, comment puis-je, moi, l'accomplir? Et c'est pas moi qui est responsable, c'est lui qui l'a décrété. Non, la Bible dit les deux. Dieu l'a décrété, puis toi, tu es responsable. Alors, tous les actes des hommes, ça, c'est dur à comprendre. Tous les actes des hommes, y compris leurs péchés, donc les vôtres, les miens, sont inclus dans les décrets de Dieu. Ceci s'étend jusqu'à la désobéissance d'Adam et d'Ève et de toutes les actions pécheresses des hommes. Cependant, la Bible affirme avec autorité que Dieu n'est pas l'auteur du péché et qu'il n'a pas de communion avec quiconque à cet effet. Dieu peut restreindre le péché, le limiter de différentes façons et le gouverner pour des fins sages et saintes. Seuls les pécheurs sont responsables de leurs actes. Qu'on prenne l'exemple de Joseph. Ses frères veulent lui faire du mal, ils veulent le vendre aux Égyptiens. Puis après ça, il leur dit à ses frères que c'est Dieu qui a permis que les choses arrivent comme telles, parce que Dieu savait ce qui était pour se passer, que éventuellement Joseph deviendrait le deuxième après Pharaon en Égypte et qu'il pourrait nourrir le peuple d'Israël. Donc, il a permis, il a décrété que ses frères feraient cet acte-là, mais c'était dans le but du bien d'Israël sur le plus long terme. On pense-tu toujours de même? Quand Dieu permet des choses dans nos vies, il permet des choses qu'on ne comprend pas toujours pourquoi il les fait. Mais c'est toujours sage. Alors, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais chialer. Alors, on va s'arrêter là et on continuera la prochaine leçon.